spoken to anyone for 3 weeks, and now...
Hello, Lana.
You made a playlist?
Yeah, a dump.
That is dump.
Tomorrow night, this dump needs to be operational.
So what's going on with the playlist?
I've been so busy trying to fix up this dump, I haven't had a chance to eat.
Tell me what exactly goes on.
So what do you got on your playlist?
Music.
It's a playlist.
Bonjour, bonsoir à tous, messieurs, dames, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, je suis Lana, encore une fois, le meilleur, le plus beau, le plus incroyable animateur de tous les temps, non, je vais un petit peu loin. Bienvenue sur Radio Campus Amiens 87.7 FM, vous êtes dans Dump de 20h à 21h, on va parler de curation musicale. On s'est pas vu le mois dernier, malheureusement, j'étais ce que l'on appelle malade. Spoiler, quand on n'a pas de voix, c'est un petit peu compliqué de parler à la radio. Donc par conséquent, je me dois de me rattraper sur le mois dernier, j'avais un invité qui est présent. Pas si loin que ça de moi. Avant tout, mon meilleur ami, qui est celui qui m'aide à ne pas me prendre la tête à devoir diguer dans le rock et dans le métal, hein, puisqu'il est mon encyclopédie à ma manière. Aussi guitariste pour le groupe Midsund, Rémi Ferreira, comment ça va bien ?
Salut Nathan, ça va et toi ?
Ça va ma foi. On se voit puisque... Le mois dernier, il y a une sortie d'un groupe en featuring avec un artiste et ce groupe, on l'aime particulièrement et toi, tu l'aimes particulièrement et c'est pour cette raison que je t'ai invité. En fait, ce prochain titre, on s'aventure dans un univers musical que moi, je connais d'apparence en surface, qui est le hardcore. À passer le premier cliché d'une musique qui hurle et de concerts où on peut y voir des personnes s'envoyer volontairement des coups de pied et des coups de poing dans une bienveillance qui force le respect, c'est une musique riche qui aborde frontalement les injustices sociales et la souffrance individuelle. Alors comme je l'ai déjà dit, hein, les genres musicaux auxquels moi je suis plus attaché dans Dump, c'est la musique électronique et le rap, mais quand le rap et le punk, en tout cas la musique hardcore plutôt, se sont alliés pour le prochain titre de cette émission, j'ai dû faire appel à toi.
Absolument, et tu as très bien décrit tout ça.
Parce que si on est là aujourd'hui, c'est pour parler du featuring entre le rappeur de Floride Denzel Curry et le groupe de hardcore du Kentucky Knockloose. Mais toi qui es plus à même que moi de parler de ce sujet, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est que le hardcore ?
Oui, tout à fait. Alors, le hardcore, c'est un dérivé justement de la musique punk dans lequel on puise dans les codes du metalcore. Ça passe par les riffs un peu tranchants, les riffs un peu mélodiques. Mmh. Ça passe également par ce qu'on appelle des breakdowns, donc des passages en général au milieu des musiques où ça va un peu se taper dessus, comme tu décrivais juste avant, où ça se ralentit, ça prend des codes du beatdown également. Tout ça, c'est un peu une hymne à la colère, une colère générale. C'est un cri de guerre, c'est une musique insurrectionnelle. Globalement, c'est de la violence.
C'est de la violence à l'état pur, mais surtout, c'est de la violence où tout le monde est OK avec ça. C'est le fait où tu peux mettre une mandale à ton voisin et à la fin du concert, la base, c'est que tu dois aller boire un verre avec lui pour pas pardonner, juste voilà, c'est la fin de la journée, c'est bon, c'est bien amusé, maintenant, viens, on va s'ambiancer un bon coup. Mais j'appuie vraiment sur cette idée en fait, que le punk hardcore, bah, déjà, c'est pas là pour être ton ami. C'est une musique qui peut paraître violente, qui peut même paraître bruitiste, que ce soit donc dans le son ou dans les textes. On pourrait parler alors de saturation émotive. Et le hardcore, ça va vraiment se charger d'être le miroir d'une société qui est violente envers ses pairs et de la recracher telle qu'elle. Et pour vous aider un petit peu, chers auditeurs, on va prendre en exemple un titre de Knockloose qui s'appelle Oblivion Speak, qui est une très bonne introduction selon moi au genre, on en avait discuté ensemble. En fait, ce titre, il évoque une histoire qui avait été vécue par l'un des amis du frontman du groupe, Brian Garris. En fait, son ami faisait partie d'une fraternité, c'est une communauté qui a des objectifs, des inspirations communes, c'est un truc qu'on voit surtout dans les campus universitaires américains, même si on en a un petit peu en France. Et en fait, il en a été exclu pour la seule raison de son orientation sexuelle, et Knockloose, dans une réponse... a sorti ce titre qui est Oblivion Speak. Je te propose qu'on l'écoute.
We'll be right back.
Oblivion Speak de No Clues. Rémi, toi qui aimes du coup particulièrement le hardcore et surtout No Clues, c'est pour ça la raison pour laquelle je t'ai invité, pourquoi tu les aimes? Qu'est-ce que t'aimes toi dans ce qu'ils proposent? Pourquoi c'est un de tes groupes préférés aujourd'hui?
Je trouve que No Clues a repris les codes d'un hardcore, du punk hardcore, qui commençait à devenir un petit peu, selon moi en tout cas, un peu vieillissant, un peu répétitif.
Ouais.
Comme tout style évidemment, mais en l'occurrence, No Clues, je ne sais pas. Il y a eu il y a quelque chose de très mélodieux, de presque un peu mélancolique qu'il propose. Et c'est surtout grâce à l'album Love Track. Ouais. Que je les ai connus et pour moi c'était un peu une petite révélation musicale et je me suis dit d'accord, on peut lier deux styles un peu opposés, enfin deux ambiances en tout cas, on peut lier la bagarre à la tristesse, on peut, et justement tout ça c'est un petit peu complémentaire. C'est ce que j'ai aimé chez No Clues en les écoutant la première fois.
Et ça c'est quelle année à peu près?
Alors si je me trompe pas, Love Track c'est 2017.
Je sais plus. Parce que tu vois, c'est ça la différence dans le sens où moi de mon côté, j'arrive beaucoup plus tard sur ce qui est en tout cas la musique de No Clues. Moi, j'arrive sur ce fameux album que tout le monde a adoré. En tout cas, la critique en a beaucoup parlé. C'était You Won't Go Before You're Supposed To, qui était en mai 2024. En fait, à ce moment-là, moi, je ressens le besoin de sortir mes habitudes d'écoute. À ce moment-là, je suis vraiment complètement plongé dans la musique électronique, qui est énergique, certes, mais en fait, elle n'a pas pour objectif de répondre un peu à ce qui se passe dans le monde, mais plutôt de créer sa propre bulle, un peu sa safe space. Et c'est à ce moment-là que moi, j'entends parler de l'album, à la fois via toi, via les gens autour, via la presse spécialisée, via les médias. On pense aussi au passage absolument cultissime chez Jimmy Fallon où la classe médium américaine découvre la musique hardcore et voit des gens qui se mettent sur la tronche en prime time sur la télé américaine, qui selon moi c'est déjà quelque chose d'impressionnant. Et c'est pareil, moi le projet je me le prends pleine face, je comprends vraiment l'ampleur du hardcore. Et il y a qu'à voir, en fait, le projet il est acclamé par la critique, spécialisé comme le mainstream, les concerts, les tournées qui s'enchaînent. Nous, on s'y retrouvait, c'était au Bataclan à Paris, où globalement, en fait, pendant 2h30 de concert, on s'est mis sur la tronche et quand on est sorti, je pense qu'on avait perdu 4-5 litres de flotte. Et moi, j'avais perdu un peu la vision à ce moment-là, mais ça, c'était une autre histoire. Et autant, tu vois, là, moi, je t'ai laissé la place justement en présentant un de tes sons préférés, mm-hmm. en tout cas le son d'introduction à Nocluse. Moi, je vais faire écouter mon son d'introduction à Nocluse, qui est la définition de ce qu'on pourrait appeler un son pour se mettre une bonne branlée. Et ce son-là, c'est Blinding Faith. C'était Blinding Faith de Nocluse. Je pense que c'est bon, vous avez bien compris là, l'approche du hardcore. Hein. C'est la musique qui fait un petit peu peur, il y a des hurlements gutturaux, c'est ce qu'on appelle du growl, des rythmiques qui sont bien puissantes, du beatdown. C'est à ce moment-là, moi, vraiment, je tombe sous le charme et que je considère que c'est mon point d'entrée au hardcore. Et aujourd'hui, avec des groupes qui m'ont marqué comme Split, comme American Football, comme Eve of Destruction, ce genre de choses-là, et je suis pas sûr d'en sortir tout de suite de ce genre musical-là, parce qu'il correspond exactement à ce que peut représenter la douleur des gens au travers de ce qui se passe dans le monde, malheureusement, actuellement. Et de l'autre côté, comme j'ai dit, c'était le son dont on va parler aujourd'hui, c'est un featuring. Et en fait, en ce début d'année 2026, il y a un featuring avec un artiste que je connais depuis assez longtemps, qui est Denzel Curry, qui est originaire de Carroll City en Floride. Alors, il se fait connaître en 2015 avec le titre Ultimate, qui était associé au Bottle Flip Challenge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce concept de jeter une bouteille d'eau, il fallait que ça retombe sur l'idée du bas. C'était un truc qui cartonnait sur Vine. Je me doute bien que, malheureusement, ceux qui ont moins de 15 ans ne voient pas de quoi je parle. En gros, c'était TikTok, mais en mieux. Facile. Et en fait, il se fait démarquer avec une approche assez hybride du rap. En fait, il est partagé entre l'héritage du hip-hop un peu horrorcore, occulte de Memphis, avec les influences de la trap d'Atlanta, et puis aussi une intensité presque punk, finalement, dans l'attitude. Et sur le papier, on pourrait même se dire que c'est un peu un choc des cultures, mais à l'écoute, en fait, on comprend que c'était évident depuis le début, et c'est ce qui frappe, c'est à quel point Denzel Curry, bah, il sonne pas comme un invité, mais comme un membre un peu à part entière du groupe. En fait, le rap de Denzel Curry et le hardcore de No Clues, ils vont parler un peu la même langue, comme on a dit, celle de la colère, celle de l'urgence, et le besoin de faire du bruit quand il n'y a plus rien qui suffit. Et Rémi, je te propose que par conséquent, on clôture avec le son qui part dans cette piste,
avec
qui démarre
plaisir.
Officiellement, véritablement, ce dump. Ce morceau, c'est Hive Mind. C'était Hive Mind de No Clues et Denzel Curry. Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. Vous êtes toujours sur Dumb, vous êtes toujours avec la Nef, vous êtes toujours avec Rémi Ferreira. Rémi, t'en as pensé quoi du son ?
Honnêtement, je l'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. Là, c'est deux cultures qui se sont associées et qui sont juste faites pour être mélangées. Mm-hmm. Je trouve que le son passe très bien. C'est encourageant pour la suite. Je pense que c'était aussi c'est un petit peu divisé ce morceau. Mais je pense que c'est justement une sorte de test un peu pour la suite et je les invite à...
En soi, il fait un peu crash test, mais les fans, en tout cas des Denzel Curry, sont pas particulièrement étonnés de cette collaboration dans le sens où on en parlait en off. Denzel Curry avait fait par exemple une cover de Rage Against the Machine pour Triple J. Ça, pour le coup, quand j'ai vu ce featuring arriver, ça m'étonnait pas particulièrement parce qu'on sait aussi à quel point la Floride a un rapport assez amoureux du côté de la musique hardcore. Ce qui... J'ai trouvé quand même que la réaction du public de No Clues était quand même très bienveillante parce qu'on a vu aussi que Denzel Curry n'arrivait pas dans un objectif un peu mercantile ou de se faire reconnaître par les ponts du genre. C'était « j'ai envie de fitter avec eux, j'ai une raison de le faire ». Et il en parlait très, très sérieusement en interview que c'était une décision mûrement réfléchie, mais que ça restait de l'ordre de la logique en fait. C'était pas une démarche... C'était une démarche artistique profonde et ça reste dans le cadre de ce qu'il fait, quoi. Et je pense que, comme tu le dis, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de nouvelles collaborations dans ce style-là à l'avenir. On voit tellement le rap se positionner comme étant des rockstars que des collaborations comme celle-ci, ça ne me choque pas. Hein. On a bien vu Lil Uzi Vert faire une collaboration avec ce personnage détestable qui est Marilyn Manson, c'est bien la même chose, quoi. Et je ne vois pas pourquoi ça ne s'arrêterait pas. Sur ce, Rémi, merci beaucoup pour ta présence. Merci encore une fois de m'avoir mis à No Clues. Merci de m'avoir donné une raison de me mettre sur la tronche dans des concerts. Et puis, de toute façon, on en refera d'autres.
Oh oui.
Oh oui, très certainement. Bon, pour mesdames et messieurs auditoristes qui nous écoutaient, on va se détendre un petit peu. J'ai devant moi deux autres personnes. Je les vois en train de sourire, en train de rigoler. Ces deux personnes-là qui sont des Amiénois. Je suis très content d'avoir des Amiénois à ma table, surtout dans la musique. J'ai l'honneur d'avoir Nage et Soro. Comment vous allez ?
Bonsoir. Ça va bien et toi ?
Écoutez, ça va très très bien. Là c'est bon, je me suis défoulé un petit peu. Là, on va aller dans un truc un peu plus calme, un peu plus détendu.
J'aime mal me connaître, ça.
Après, c'était bien, hein.
Oui, c'était bien. Hein. Ah, mais là, on.
C'est bien, clous, hein.
Voilà quoi. Là, bien, on redescend
de des coups de poing dans l'air. C'est
cool. Je me sens hyper à ma place là.
si je vous ai invité, c'est parce que Nage, tu sors ton premier EP.
Oui.
Comment tu te sens déjà le fait d'avoir enfin sorti ce premier projet après avoir sorti une série de singles ?
J'ai l'impression d'avoir accouché au bout d'un an alors que de base une grossesse c'est 9 mois.
Ouais, j'allais dire la gestation est longue là.
Ouais, la gestation était plutôt longue mais elle en valait la peine.
Ouais.
Je me sens plutôt bien. Vraiment, je suis contente en fait de pouvoir avoir sorti des sons que je jouais déjà en live. Mmh. Et c'est des sons, il y a plusieurs personnes qui me disaient « Oh, mais quand est-ce qu'on peut les entendre ?» Et maintenant, ça y est en fait. Enfin, les personnes peuvent écouter ma musique en dehors des concerts, enfin, du moins ces musiques-là précisément. Donc je me sens plutôt bien et je pense que je me sens fière aussi.
Je comprends tout à fait. Et là, tu parlais justement de cette gestation, en tout cas ce fait que le projet il a pris à peu près un an à se construire, c'est ça ? À quel moment ça te vient à l'esprit de dire que ça y est, les singles, c'est bon, maintenant on passe à un projet, à une démarche constructive, en tout cas une démarche cohérente et le fait de créer un ensemble ?
Bah en fait, cette démarche, elle était déjà venue pendant la sortie des singles. Mmh. L'idée de l'EP, en vrai, je l'avais dès le début, dès que j'ai commencé à travailler avec Soro, mais... Ça me paraissait un peu étrange de sortir un EP alors que personne m'écoutait encore puisque j'existais pas en termes musicaux. Bien sûr que j'existe depuis 22 ans et que c'est super. Mm-hmm. Mais ouais, voilà, j'avais pas envie de drop un projet, un 5 titres, un 6 titres et d'avoir personne qui l'écoute. Mm-hmm. Donc je me suis dit, on va être un petit peu intelligente et cohérente. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode de sortir des singles. Et en plus, cette sortie de single, en fait, ça m'a permis de créer des clips et des visuels autour et de me trouver aussi en termes de direction artistique de à quoi j'avais envie que le projet ressemble et aussi à rencontrer Soro avant tout avec qui je produis toute ma musique. Donc voilà comment c'est venu.
Comme ça a été dit bien gentiment, effectivement, la personne qui est à côté de moi, donc Soro, tu es donc producteur de Nage.
Tout à fait.
À quel moment vous vous mettez à travailler ensemble en gros ?
Ça remonte à 2 ans maintenant.
Oui. Mmh.
Ouais, ça remonte à 2 ans. Ouais, à peu près 2 ans. C'est tout con. Hein. C'est il y a 2 ans et demi, on se rencontre sur un truc qui a rien à voir.
Un anniversaire.
Un anniversaire d'un autre artiste auquel on était tous les deux, qui est un ami de Nage. Mmh. Elle a fait quelques morceaux guitare-voix. J'ai dit bah il y a une voix intéressante qui se profile là, dis donc. Et du coup j'ai dit bah tiens j'ai un studio, viens.
Et moi,
six mois après, elle m'a envoyé un message pour me dire « Je peux venir ?» Et puis je dis « Oui !» Et puis voilà. Et ça fait 2 ans. Et on se voit très fréquemment maintenant pour produire sa musique qu'elle compose de son côté.
Je tiens à faire un disclaimer que Nage n'a pas cette voix-là dans la vraie vie. Hein. C'est encore plus aigu normalement.
Exactement.
Cet EP, il est dans la veine des précédentes sorties, dans le sens où le sujet principal, c'est avant tout les relations amoureuses et la douleur qu'elles peuvent dégager quand ces sujets-là ils sont particulièrement intenses, qui a l'air d'être dans le cas, et en tout cas ce qui transpire dans ta musique. À quel point ce sujet-là, il est important pour toi ?
Je pense que c'est au-delà de l'import... Enfin, comment dire ? c'est même pas tant que c'est important pour moi, c'est que ça fait partie de ma vie et que je fonctionne comme ça. Mmh. Et tout ce que j'écris, soit ça provient de mes expériences, soit ça provient des expériences des personnes que j'aime autour de moi, puisque j'adore écouter les gens et que les gens adorent me raconter leur vie, donc ça tombe très bien. Et moi, j'aime bien raconter ma vie. Du coup, bah, en faisant un petit boogie-boulga de tout ça, ça donne en fait cette intensité amoureuse et parfois aussi cette tristesse et cette violence qui peut en découdre. Mmh. Et je pense que le fait aussi que je sois une femme dans une société patriarcale fait que je subis d'autant plus cette violence, puisqu'on sait que, comment dire, les hommes peuvent parfois être très durs. Mmh. Et donc, oui, en fait, mes premiers écrits, je me rends compte que les premières fois où j'ai commencé à écrire en fait, au collège, c'est né suite à des déceptions amoureuses. C'est né suite à cette intensité que j'ai d'aimer très fort les gens et qui parfois ne peut pas me le rendre en retour ou ne peut pas me le rendre de la façon dont j'ai besoin et dont je fonctionne.
Moi, ce que je te propose, parce que là, en fait, on est en train de papoter, je viens autour de la table, en fait, on connaît tous ce que tu sors, mais je suis pas sûr que les gens qui écoutent la radio te connaissent forcément, même si j'ai quand même du mal à y croire, puisque si vous êtes censé écouter Radio Campus Amiens, vous êtes censé avoir déjà entendu Nash sur nos ondes. Je vous propose en premier titre qu'on se passe celui avec le refrain qui va nous rester dans la tête pendant 2 semaines.
Yeah. Mais moi j'en peux plus.
Là je vois des regards parce que je sais très très bien ce qui va se passer. C'est qu'on va couper les micros, on va chantonner et après on va l'avoir pendant quoi, 2 semaines en tête à peu près.
T'es gentil.
Ouais, facile. Ce son là c'est Docteur, on se le met tout de suite sur Dump.
Mascara robe de la veille, je me sens dépravée alors que je n'ai que dormi à ses côtés. Avec sa voix dans mon oreille qui dit. Mais je lui donne tellement de moi que je me sens nue dans son lit, dans ses draps. Je ne sais plus rejoindre Morphée sans un je t'aime. Pourtant ça fait des mois qu'on me l'avait pas dit. Je ne sais plus m'assoupir sans quelqu'un de près contre mon corps. C'est quoi de me faire souffrir? Et quand j'étais dans tes bras, tu ne me regardais pas quand j'embrasse autre là. Tu ne m'oublies pas, impression de ne plus te connaître. Et pourtant, putain, t'es dans ma tête. Tu révèles ton vrai visage quand amour ne pardonne plus. Tu pousses le vice au bout jusqu'à me voir pleurer puis dire j'en veux plus. Tiers question, aucune réponse. Parce que je sais te communiquer, c'est pas ton truc, ouais, bonne réponse. Tu sais pas faire, même quand t'es piqué, tu. C'est plus facile de pas essayer que de faire ta vie et de tout tenter. De toute façon, j'ai jamais été ta priorité. Avec un grand A, l'amour ne suffit plus, je trouve ça injuste. Sur cage thoracique, il y a comme le poids d'une grue, l'impression de mourir, de partir, juste parce que c'est moi qui suis partie. J'ai peur d'être blessée ou de te blesser. J'ai peur de reproduire un énième baiser. Je ne demandais pas tant, juste d'être aimée. La vie prend un tournant que j'ai provoqué. Je ne veux plus me cacher, faire tapis et tout tenter. Je ne veux pas t'oublier, mais réussir à avancer avec ses souvenirs dans ma tête et sans ses regards. À chaque fête, tes potes me détestent. J'ai compris que j'étais mauvaise. Pas étonnant quand on a un cœur de braise.
Vous écoutiez Docteur de Nage pendant que Soro est en train de faire des gestes, on dirait Julien Lepers dans Question pour un champion. C'est assez terrifiant.
En fait, c'est parce que tu fais pas les gestes. Du coup, moi, je les fais à ta place parce que tu prends pas ton taf au sérieux. En fait.
Non, je suis bénévole. Mais... Ouais, non, c'est méchant. Franchement, c'est méchant. Tiens, on va parler un peu de toi, tiens, Soro. Parce que sur la scène amiénoise, t'es plutôt connu sur des projets qui sont pas particulièrement pop. Ouais. Je pense à des projets comme Sadraen, comme Soro Soumsou, qui est même ton projet solo rap, sous le nom Soro. Comment on se retrouve et comment on arrive à faire de la musique pop, sachant qu'à la base, c'est pas ce que tu produis. Est-ce que ça reste dans tes influences? Comment tu produis dans ce cas-là cette musique?
Je me renseigne déjà, tu vois. Genre, j'écoute beaucoup de styles de musique, du coup, étant donné que... Donc ouais, j'ai ce groupe de métal, Sadraen, depuis 2014. Soro et Soumsou, ça fait depuis 2018, je crois. Et en solo, du coup, aussi longtemps, même un peu plus longtemps, du coup. Mais du coup, déjà de base, j'écoute beaucoup de musiques différentes. Et... dans le cas de Nage, je fais mes devoirs, c'est-à-dire que je vais écouter des projets d'artistes divers et variés, de la pop française, ricaine, même britannique ou quoi, pour étendre un petit peu mes connaissances auditives et musicales.
Tu dis ça, mais c'est toi qui m'as fait découvrir Yoa. Je me rappelle, deuxième session que je fais chez toi, et tu me dis, il faut que je te fasse écouter un truc, et tu me fais écouter. Moi, je suis en mode, waouh, il faut sachez, c'est une référence, ce que je viens de faire, je sais parler français, que Yoa, c'est une de mes plus grosses inspirations des dernières années, quoi. Ouais. Et non, en vrai, tu m'as surpris plusieurs fois. Même parfois, je t'entonne des trucs de pop, là, juste avant l'émission, c'est ce que je faisais, et je vois qu'ils complètent. Ouais. Donc, les devoirs sont vraiment pris au sérieux.
Zélie.
Ouais, j'allais demander c'est quoi les inspirations. Ouais. Zélie, Mickey, Yoa.
Mickey, moins.
Mais un petit peu moins. Okay. Ouais. J'ai quand même écouté, tu vois, j'écoute un peu tous ces gens-là, Solane aussi.
Iliona.
Solane, j'aime beaucoup.
Moi, j'aime beaucoup Colt. Je sais que dans mon écriture, je m'en inspire Colt. Beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup.
Ce genre de choses que je reste au courant de ces choses-là, quoi, pour. Rester productif, rester créatif dans cette zone-là de la musique aussi, quoi.
Et comment, du coup, on peut qualifier cette relation de travail que vous avez? Parce que tu as l'air d'être à la fois beatmaker, producteur, il y a un peu de DA derrière.
En fait, c'est Nage qui compose et qui écrit ses chansons entièrement. Moi, je viens juste faire limite des petits ajustements de compo et des ajustements de lyrics. Ça arrive que je te dise, bon, là, tu devrais peut-être dire ça.
Il y a un mot en trop, ça m'arrive souvent.
C'est des tout petits ajustements. Mais en fait, elle arrive avec sa guitare, elle me fait son morceau qu'elle a écrit dans son coin, guitare-voix, et puis moi, je prends ce qu'elle a composé, sa suite d'accords, etc. Et là, on choisit les sons. On va chercher, on veut quelle identité pour ce morceau-là, on va chercher tel type de clavier, tel type de batterie, tel type de machin, pour aller construire par-dessus son squelette qu'elle a composé de son côté. Ouais.
Je sais que souvent, comme image pour en parler, je prends celle du peintre qui est en train de peindre un tableau et que t'as une personne à 2 mètres derrière et qui fait non, là, un peu plus à droite. Bah, moi, je le vois comme ça, un peu la création quand je suis dans le sens où j'ai l'impression que t'as les outils et que tu sais t'en servir.
Oui, et Nage est toujours présente aussi pendant la production, ça c'est important.
Et donc fait que vraiment, on a réussi à développer aussi une façon de communiquer où parfois je peux dire des trucs qui me paraissent pas clairs du tout et au final tu comprends.
En fait, je pense que quelqu'un qui assiste à une de nos sessions de création comme ça, il comprend pas.
Ah oui,
on parle alien, on a un langage particulier.
Ouais, il y a une relation fusionnelle qui s'est fait au fur et à mesure des séances et au fur et à mesure du travail qui a été fait ensemble.
De ouf.
Mais pour autant, est-ce que... T'es pas le seul producteur, en tout cas, sur cette EP de Nage.
Non, tout à fait. Il y a Minuit 36, il y a Tentaker qui est aussi à la compo. T'as même commencé, pour le coup, avec Tentaker, ce morceau-là. Et moi, je suis...
Si vous voulez tout savoir, en fait, c'est parce que je me rappelle, c'était une période où je pouvais pas aller au studio. Ouais. Parce que Soro se reposait, etc. Il était en vacances. Et j'étais frustrée de pas pouvoir faire de musique. J'en ressentais le besoin. Et du coup, j'ai été lui faire une infidélité. Et j'ai rencontré Tentaker, qui est venu un soir chez moi. Puis on a fait du son comme ça, un peu... Moi, je lui avais montré des inspi à la Vidéoclub, en plus, et des trucs de Vaporwave, donc ça se détachait en plus un peu de ce qu'on faisait de base. Mmh. Et de l'autre côté, au final, quand j'ai reçu la petite maquette qu'on a fait ensemble, j'ai fait « Ok, il faut qu'on se voit à trois, il faut qu'on travaille tout ça à trois ». Et au final, c'était hyper drôle cette session, parce que je voyais que les deux geeks, ils parlaient entre eux, et là, pour le coup, c'est moi qui comprenais pas.
Ouais, langage technique à fond, jusqu'à minuit du soir. à être les yeux écarquillés, injectés de sang, à se dire ouais, là tu devrais mettre un low pass sur le SQ80 parce qu'en fait, je t'explique, le pad en ARP, ça marche pas forcément avec le.
Parce que j'ai fait l'erreur de dire est-ce qu'on rajouterait pas un pont ? Et là j'ai compris que j'avais créé une guerre. Genre, vraiment,
j'ai déjà perdu du monde avec Noclouz juste avant. Si on commence à rentrer dans les termes techniques de beatmaking.
J'ai dit n'importe quoi.
Oui, mais je m'en suis douté. Bon. Vous êtes politique, vous, non ?
Oui, tout à fait. Ouais, à côté de ça, je suis aussi député de la France Insoumise.
Ouh là 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 là. Je reviens sur quelque chose qui a été dit un petit peu plus tôt. On parlait donc de rupture amoureuse, de douleur, ces termes de sujet-là. C'est quelque chose qu'on s'est mis à percevoir aussi dans ta musique, c'est l'éveil amoureux. Alors, d'abord porté par une artiste qu'on peut déjà dire cultissime, qui est Christine and the Queens, dorénavant Raïm R. Redcar, si je me trompe pas. Rhyme C. Redcar, si je ne dis pas de bêtises. Mais Christine and the Queens, particulièrement dans les années 2010, qui avait été figure de proue dans cette nouvelle vague de la pop française, qui avait même été qualifiée par le magazine américain Time comme la personne la plus influente pour la jeunesse. Est-ce qu'on peut dire que, au travers de musique comme celle qu'on va passer après, donc que je vais teaser, mais est-ce qu'il y a une ouverture dans la musique pop française, dans les musiques d'amour, de enfin se débarrasser de ce côté de l'hétéronormativité, le fait qu'en fait on peut laisser la place à des manières d'aimer différentes que simplement un homme et une femme.
Je pense que je pourrais pas me permettre de parler au nom de toute la pop française, mais en tout cas en ce qui concerne ma pop, c'est évident que oui, puisque bah ça va faire.
C'est même évident queer.
C'est exactement. Non, mais oui, enfin on l'a tous compris. Et man, allez écouter mon EP, mais c'est un EP de rupture parce qu'en fait au moment où je l'ai composé, je me suis séparée d'une longue relation hétéronormée qui était une relation fermée avec un homme. Et où j'ai vécu des choses merveilleuses. Mais forcément, quand on passe 5 ans avec quelqu'un et qu'on a 22 ans, on fait vite le calcul, ça fait que c'est des ruptures qui peuvent être très intenses. Et en fait, de par cette rupture, je me suis mis à me poser beaucoup de questions, à me poser des questions par rapport au fait, bon, je le savais déjà, mais que j'aime les femmes également, mais aussi des questions par rapport à comment je relationnais. Et donc, de par ça, je me suis rendu compte que je pouvais être amoureuse de plusieurs personnes en même temps. Je sais que c'est pas la norme et que ça peut en choquer plus d'un. Mais tout le monde est au courant, tout le monde est content et contente. Et en fait, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie depuis que j'écris par rapport à ça, depuis que j'en suis fière et que. Et oui, c'est ça en fait, et que je l'aborde fièrement et que je m'entoure aussi de personnes qui fonctionnent parfois comme ça. Donc oui, je pense qu'en fait, les relations en général sont en train de subir un espèce de changement, je trouve, énorme, même amicalement. Enfin, je veux dire, en ce moment, il y a un peu tout qui part en couille dans le monde, on s'en rend compte. Et j'ai l'impression que quand même, de par ça, ça fait qu'il y a aussi des cases et des codes qui se déconstruisent. Mmh. Ou alors c'est juste moi qui suis entourée aussi de personnes queer, et c'est possible. Mais oui, je pense qu'il y a quand même un éveil par rapport à ça. Enfin, c'est con, mais juste par exemple, on prend Marguerite qui a fait Les Filles, les Meufs, qui passe sur toutes les radios en ce moment de France. Il y a 5 ans, ça n'y aurait pas eu. Ou alors quand il y avait, il y a 10 ans, en fait, c'était des faux groupes formés avec des meufs qui n'étaient même pas vraiment lesbiennes et qui ne s'aimaient pas. Enfin,
Bonjour Tatou. Oui, voilà. Tatou, groupe russe que vous connaissez pour All the Things She Said, sauf qu'on a découvert maintenant qu'une des deux artistes est devenue homophobe.
Ouais, c'est. Enfin, c'est.
Le plot twist.
Ouais, un petit peu, ouais, c'est un peu bizarre. Mais, et tu vois, justement, donc, tout cet éveil amoureux et tout ce que tu viens d'évoquer là, tu disais justement, tu as écrit là-dessus, et je te propose qu'on clôture en tout cas avec le son qui représente au mieux, je pense, l'EP et même les thèmes que tu abordes dans cette EP, c'est Diable.
méfiante de ma façon d'aimer. C'est dissonant comme trop d'accords de jazz qui s'enchaînent. J'ai besoin de beaucoup ou juste de véritable amour, celui qui t'écoute. Mon cœur, il tabasse facilement. Une des premières fois à Paris, je travaille avec papa, on descend l'échafaudage, on dépouille un toit, cheveux sales, mains froides, cœur chaud, comme disait Pépé. Elle passe à vélo à toute allure, la fameuse conduite à la parisienne. Des cheveux bruns, un trench, un visage, une aura. C'était quelque chose. Elle n'est pas sortie de ma tête pendant 3 mois. C'est long, 3 mois. Pourtant, j'appréciais mon copain de l'époque, c'était avant que je me rende compte que les hommes déçoivent beaucoup. École primaire, j'avais des amoureux. 1 à sens multiple, 4 à sens unique. Je n'arrivais pas à fermer mon cœur quand un sentiment était censé se terminer. Pour moi, il n'y a pas d'adieu, il n'y a que des au revoir. Pourquoi j'auto-sabote tout comme ça? Je nique toutes mes relations. Je retiens que mauvais, jamais le bon. Je me fais peur quand je suis comme ça, je boue comme une cocotte minute. Je fais tout péter à l'explosif. Le bicarbonate, c'est mon cœur. Le projectile, c'est mes mots. Et la cible, c'est les autres.
Si tu es le diable, je viens aller en enfer. Blasphème, je me permettrais, en fait. Ce serait doux, ce serait chaud, ce serait où? Ce serait doux, ce serait chaud, ce serait fou. Si tu es le diable, je viens aller en enfer. Blasphème, je me permettrais, ce serait fort et je dirais.
J'apprends aussi l'amour autosuffisant. Ça, j'avoue, je sais pas encore gérer. Je sais pas mettre le cœur en pause. Je trouve toujours quelqu'un à garder en ayant des pupilles dilatées, des frissons dans l'estomac et des battements lorsque les peaux se frôlent. Comme si ma phase d'amour fort était restée bloquée au stade d'adolescence. Mon adolescence, je l'ai découvert grâce à toi. Je crois que c'est de ça qui me manquait. J'aime les phases obsessionnelles de début de relation, comme si stabilité voulait dire ne plus s'aimer. Et putain, les longues relations, j'ai fait que ça. J'ai enchaîné. C'est plus simple quand c'est stable et pas quand on a les pieds dans le sable. Et pourtant, putain, nous, on n'avait rien de stable. Les opposés s'attirent, t'étais mon aimant, j'étais ton prénom. Notre seul point commun, c'est notre poids, c'est notre humour. C'est dangereux, la passion. Puis j'ai envie d'aller mieux. Et toi, d'ignorer ce que tu ressentais. Je peux plus travailler à la place des autres. C'est pas que je m'autorisais pas à être heureuse, mon cœur. C'est que je m'autorisais à aller mal. Et toi, non.
C'est ça la différence. Si tu es le diable, je peux aller en enfer. Blasphème, je les garderai en fait. Même si c'était chaud, même si c'était doux, même si c'était fou. Si tu es le diable, je peux aller en enfer. Blasphème, je les garderai. Et je dirai, je m'aime.
Vous écoutiez Nage. Nage, c'était quel titre ?
C'était Diable.
Ouais, parce que j'avais pas envie de l'utiliser. Je trouve que c'est mieux quand c'est l'artiste qui le présente.
Sur l'EP Aimant, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
Sauf YouTube Music.
Sauf... Ah bon ?
Oui, parce qu'on emmerde DistroKid.
Oh.
Je sais pas pourquoi, ça fait un mois et demi que j'essaie de régler ce problème. Il veut
ah ouais, il y a des messages engagés dans Dump.
Ouais.
C'est comme ça.
Ah non, non, mais c'est vrai, j'ai tout le temps des problèmes. N'hésitez pas, hein, si...
Si, y a service
si vous pouvez m'aider à distribuer ma
émission,
musique.
Voilà,
si
le...
jamais YouTube écoute cette émission, n'hésitez
oui,
pas.
Voilà, si c'est évidemment. Ouais. Question simple mais évidente. C'est quoi vos agendas pour 2026, Nage et Soro?
Oui, tout à fait. Bah, en fait, faut pas que je spoil les trucs, parce que moi, je suis la reine du spoil, c'est terrible. Mais en gros, en ce moment, il est possible qu'on ait déjà en train de travailler sur la suite.
Mm-hmm.
En fait, et sur un deuxième EP, voilà.
Oh, toujours avec Soro Manette ou t'as enfin décidé de le virer?
Non, évidemment, Soro.
Ah mince.
Ça me... Quelle question. De toute façon, il n'y a personne qui est plus doué que lui ici, donc j'ai pas le choix. Mais voilà, hein, pour les petites sorties qui vont arriver. Sinon, là, récemment, on a sorti des live sessions avec La Maladisque et avec Adieu Perroquet. On a fait une reprise de Deux Trop, qui est le son introductif de l'EP, juste en guitare-voix, et qui me tient particulièrement à cœur, puisque bah, c'est comme ça que je compose à l'initial, et j'aime bien de temps en temps faire des petits guitares-voix en mode genre « Coucou, de base, ça ressemble à ça, avant qu'on y touche avec Soro. »
C'est disponible sur YouTube, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Là, pour le coup, oui.
Ok, y a pas sur les autres plateformes, je crois, c'est que YouTube.
Ouais, hein. C'est que YouTube, et sinon on a fait des petits reels, c'est disponible sur Insta aussi, en format vertical.
Et tes vlogs?
Ah oui, j'ai fait des vlogs. Si vous voulez nous entendre parler une langue incompréhensible lorsqu'on fait de la musique avec Soro, eh bien, je fais des vlogs. J'en fais un petit peu tout le long de l'année et je fais ça pour documenter mon processus créatif et de montrer comment en fait on fait de la musique, puisque faire de la musique, c'est pas que faire de la musique, c'est aussi réaliser les clips, c'est aussi faire des dates et faire la SACEM et machin. Et du coup, un vlog sur deux, c'est moi qui pleure, moi qui suis heureuse, moi qui pleure, moi qui suis heureuse. Et voilà, je vous invite grandement à aller les voir.
Sur la chaîne YouTube Tour Nage, tiré du bas, Nage, N-A-J-E.
Et quant à toi, Soro, c'est quoi l'agenda pour 2026?
Bah écoute, là après, je vais aller manger.
C'est l'agenda très court.
Puis
là,
après, on verra. Non, il y a le P2 Nage du coup qui est en cours de préparation, qu'on va essayer de. Qu'on est en train de bien bosser, même, je vais pas en dire trop. Mais c'est, ça arrive plus vite que vous ne le pensez. Moi, de mon côté, je travaille aussi sur le prochain projet de Soro et Somsouk qui va sortir. On n'a pas encore annoncé la date de sortie, donc c'est pareil, mais je suis sur la fin du processus de mixage mastering de ce projet-là. Je bosse pour plein d'artistes sur Amiens, donc il y a plein de choses qui arrivent.
Ouais, sous ton propre nom, parce que tu es producteur sur le côté aussi. Sous quel nom ?
Producteur sur côté, oui, exactement. Non, sur le côté. C'est donc le studio Ocho Castillo, voilà, à Amiens. Et je produis plein de gens, et il va y avoir plein de choses qui vont sortir cette année, et j'essaye chaque année de produire plus de choses que l'année précédente.
Et de qualité.
Et de meilleure qualité à chaque fois, et du coup je dors de moins en moins, et là je vais aller dormir après manger.
C'est une bonne idée. Pour terminer, ce qu'on a évoqué quelques noms, enfin en tout cas les équipes par-ci par-là, il y a qui à remercier, parce que moi je peux vous remercier vous d'être là, mais je sais qu'il y a plein de gens derrière qui travaillent autour du projet Nage. Il faut rendre les lauriers à qui ?
Là, tout de suite, j'ai envie de remercier Gaëlle Mathieu, qui est ma choréale, puisqu'en ce moment, on travaille sur les visuels, forcément, pour la suite. Et c'est une énorme charge de taf, en fait. Et c'est une personne que j'ai trouvée où, en fait, créativement, ça marche autant qu'avec Soro, mais sur l'image, cette fois-ci. Et ça me tient particulièrement à cœur de toujours garder mon image qui est gérée par une femme, puisqu'elle comprend, elle représente précisément ce que je veux. Qui est-ce que je peux remercier d'autres? C'est une bonne question. Ma famille, en vrai, pour le coup. Je pense que c'est les personnes qui me soutiennent depuis le début, même quand ça ressemblait à rien. Et même là, actuellement, ils sont à fond derrière moi et ça me touche énormément. Et surtout que, en réalité, si j'ai commencé à aller voir Soro, c'est parce que ma petite maman est tombée malade il y a 2 ans. Et c'est précisément, je pense, cet événement-là dans ma vie qui m'a donné un gros coup de pied au cul. Et voilà, et j'ai très hâte d'en parler davantage dans la suite des choses qui arrivent. Voilà.
Soro, est-ce qu'il y a des remerciements à faire de ton côté ?
Oui, je pense qu'on peut aussi remercier l'un comme l'autre. On peut remercier la Lune des Pirates qui nous a accompagnés sur du coup nos lancements de carrière musicale, on va dire, qui nous a aidés à nous structurer un petit peu au cours de l'année précédente. On peut aussi remercier Cité Carter qui nous font un nombre incalculable de passes décisives qui sont pas l'obligation de faire et qui font quand même parce qu'ils nous aiment bien et qu'on les aime bien et qu'on s'entend bien, quoi. Donc on peut remercier ces deux structures là et puis Radio Campus pareil, hein. C'est con mais on est dessus là, mais voilà, Radio Campus qui est depuis quelques années pour moi et depuis le début du coup pour Nage.
Vous êtes la première radio sur laquelle je suis diffusée.
Voilà.
C'est même important. Ça a été mon premier vrai concert, en fait, quand j'y pense, Radio Campus, puisque j'ai fait un Bruit de Lune.
Ouais.
Et c'est vraiment le Bruit de Lune qui m'a amené à appeler Soro 3 mois avant, lui dire, écoute, j'ai dit oui pour faire un set de 30-35 minutes, mais on n'avait pas les 30-35 minutes. Non, mais c'était n'importe quoi, ça, quand j'y pense, vraiment. Je l'ai appelé, vraiment, je venais de me séparer, j'étais au fond du trou, j'allais mal, j'avais écrit plein de textes horribles, et j'étais comme ça chez lui, dire, écoute, dans un mois...
Il faut qu'on fasse plein de musique horrible, vite.
vite, faisons de la musique horrible.
C'est dans quel vlog, ça?
Et suivez l'épopée novembre 2024, 3, 4, je sais plus compter.
Il y a jadis,
il y a tout ça. Mais ouais, non, en fait, tout est parti de là, donc merci à Radio Campus, hein, sincèrement. Ouais. Et à Somsouk.
Et il y a un dernier merci. Un dernier merci que je passe autour de Nage, et je pense qu'elle va comprendre pourquoi. Je remercie Axel Fripon, qui met tous les lyrics sur Genius, et c'est quand même vachement plus simple pour préparer ses questions, analyser les textes.
Ah, il fait ça.
Merci Axel.
Ouais.
C'est incroyable.
Voilà, tout artiste amiennois qui se respecte, si vous avez la flemme de mettre vos textes, envoyez un message à Axel Fripon et on en discutera.
Et allez voir son travail, il fait du mix média qui est vraiment sublime.
Tout à fait.
Enfin, en plus, ce qui est trop cool en ce moment, c'est qu'il a mis en place un truc où il va à des concerts à la Lune, et quand c'est des artistes qui lui plaisent vraiment, en fait, avant, il choisit ses lyrics préférés de l'artiste, et il fait un tableau avec, et il va le donner en main propre. Mmh. Et à côté de ça, il crée des réels autour de ça, donc vraiment, c'est trop cool. Suivez ce qu'il fait.
Tout à fait. Merci encore à vous deux pour votre présence. Merci, merci d'avoir répondu à mes questions, et puis bon courage à vous deux pour la suite. On va arriver sur le dernier artiste, en tout cas le dernier groupe dont on va parler pour cette émission. Et indirectement, Nage, tu vois très bien de qui je parle, puisque nous sommes allés les voir à la Boule Noire, mais moi je les ai vus un petit peu plus tôt. Je les avais vus à leur release party sur Paris. Ce groupe, c'est un quatuor du Jura perdu entre rock alternatif, rock progressif et balade sonore très très éthéréole. Ce groupe-là, c'est Wayob, et j'ai pu faire une interview avec eux, donc à leur release party au Point Éphémère. Pour l'interview d'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi le groupe Wayob. Comment ça va, les gars ?
Ça va et toi ?
Ça va très très bien.
On se retrouve là au Point Éphémère pour la release party de votre projet. Donc là, j'ai l'honneur d'avoir le chanteur Swan et Ivanoé. Je vais poser la question qui est très très simple, mais vu que l'histoire me fait beaucoup rire, je suis obligé de vous la redemander. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes rencontrés, Wayob ?
Comment on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés au lycée déjà. Ivanoé était en seconde, on était en terminale parce qu'on est vieux par rapport à lui. Et un jour, il y a eu un blocus au lycée parce qu'il y avait des réformes, etc. Et on n'était pas contents et pas d'accord. Mmh. Du coup, on a décidé de sortir tous les instruments du lycée, de tendre des câbles depuis le CDI, etc. Et de faire un concert dehors improvisé de 3 heures. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, venez les gars, on fait de la musique ensemble parce que c'est vraiment trop bien quand on le fait comme ça, même sans réfléchir. Et donc, on a commencé à composer et voilà où ça nous a mené aujourd'hui.
Et puis surtout, Wayob, en fait, c'est plus qu'un groupe, et c'est un peu ce qu'on avait évoqué au travers du projet de Nage, c'est que, comme dit une grande expression anglaise, « it takes a village », c'est pas juste l'artiste qui est en train de faire la musique qui compte, c'est qu'il y a toute une équipée derrière, et du côté de Wayob, c'est un peu la même chose.
Il y a toujours ce côté de collectif, même avec l'entourage musical proche, c'est quelque chose qui a l'air d'être super fort pour vous, en tout cas qui est super important, ouais, non ?
Carrément. Ça vaut pour un peu... ça vaut pour tous les gens qui nous entourent, autant au son qu'à l'image, qu'au management, que dans la tournée, dans la com, dans la presse et tout ça. Mmh. On bosse avec énormément de gens qui nous sont proches et on a des liens franchement forts. Typiquement, on a toujours enregistré au même studio dans le Jura,
ouais,
avec Martial, le mentor de tous, le dieu de tout le monde. Et on a Héloïse Clanet dans notre équipe qui s'occupe vraiment d'énormément de choses et qui fait que le projet tient la route, quoi.
Mais c'est aussi en lien avec une volonté de mettre un peu l'humain au centre dans ce projet, que ce soit du coup donc dans la manière dont on a de fonctionner, mais aussi dans les paroles, dans la musique de manière générale. On défend une forme d'empathie, une forme de vivre ensemble, et ça ferait pas sens pour nous de le faire et puis à côté de voir les gens qu'en visio et de travailler avec des gens qu'on connaît à peine, quoi.
Ouais,
donc non, c'est important pour nous, comme tu dis.
Et en fait, Wayob, c'est un projet qui est très très jeune, hein, dans l'approche. Leur premier EP était sorti en 2022 qui s'appelle Live Drop. Ils ont sorti un deuxième projet qui s'appelle Collapse Relapse en 2025, et en fait le premier album arrive très très vite, surtout après ce deuxième EP, et par conséquent je me posais la question, pas est-ce que l'album était précipité, mais comment justement ils se sont retrouvés à produire quelque chose aussi rapidement, puis surtout d'aussi conséquence, on en parlera un petit peu plus tard. Ils ont répondu à ce sujet-là.
Ce qui est cool, c'est que d'un côté, on pourrait croire qu'en fait, c'est allé très très vite entre le deuxième EP et le premier album, mais si j'ai bien compris, il y a déjà des titres de cet album que vous jouez déjà depuis au moins 2 ans, en fait, sur des concerts.
Plus que 2 ans même. Il y a notamment un titre, Fangs, qu'on joue avec un fan favorite, comme ils disent, depuis bien 4 ans qu'on joue en live. La compo de cet album, en fait, s'est faite avant la composition de l'EP de l'an dernier. Bah, en fait, on travaille sur cet album déjà depuis longtemps, on se posait même pas la question d'un EP.
Ouais.
On a enregistré l'album après un moment de composition il y a 2 ans, en fait, déjà. L'album est couché sur les pistes depuis 2 ans.
Okay.
Et c'était une question de le sortir au bon moment et de le sortir avec les bonnes conditions. Tout le monde n'était pas forcément libre, il y en avait qui étaient en études, etc. Mmh. Donc on a préféré se dire, on repousse l'album pour le sortir vraiment au moment opportun et lui donner l'impact qu'on aimerait qu'il ait et la portée qu'on aimerait qu'il ait.
Ouais.
Et donc on a recomposé cet EP de l'an dernier, Collapse Relapse Relapse en quelques mois, mm-hmm. avec Nel qui a rejoint le projet, qui est la personne qui fait tous les visuels du coup de Collapse Relapse l'an dernier et puis de l'album par la suite. Mm-hmm. Et ça a été ouais résidence pluriartistique, puis on enregistre direct dans l'idée d'un EP plus live, plus brut, et on a sorti Collapse Relapse l'an dernier. Après même pas, il y a même pas eu un an entre la décision de sortir quelque chose et le moment où c'est sorti, quoi, pour permettre de prendre le temps sur cet album.
Finalement, c'est une décision. En tout cas, la volonté, c'est d'être libre, mais c'était pas d'être une liberté artistique, c'était une liberté de pouvoir manœuvrer comme vous voulez pour défendre au mieux le projet, en tout cas l'album.
C'est ça. En fait, on se rend compte petit à petit en mettant les pieds, en plongeant de plus en plus profondément dans le monde de la musique et dans le monde du développement de projet, on va dire musical, que il y a beaucoup d'enjeux qui vont bien au-delà de la composition. Alors parfois malheureusement, parce qu'on aimerait que tout soit plus simple et de pouvoir juste faire de la musique et que ça sorte et que ce soit bien et en vivre. Mm-hmm. Mais le monde est plus complexe et du coup, déjà on a la chance d'avoir des gens, comme disait Iva, qui nous entourent pour nous aider là-dedans et puis pour nous faire ouvrir les yeux aussi sur le fait que effectivement cet album, avec le recul, au début c'était dur d'imaginer repousser cet album parce que c'était quelque chose qu'on avait vraiment mûrement réfléchi depuis longtemps. Mm-hmm. Et au final on est très heureux que ça sorte maintenant et que ça sorte dans ces conditions-là. Donc c'est quelque chose qui a été hyper bénéfique au final pour le projet et voilà.
Et ce projet, il est influencé, il suinte littéralement les influences qui ont déjà été évoquées maintes et maintes fois par le groupe. Je pense à des artistes comme Radiohead, je pense à Black Midi, je pense à Swans, à Squid, à Puta Maria. Et c'est des influences, c'est pas juste par-ci par-là, c'est une influence de fond qui est saupoudrée, en tout cas qui est apportée par la fraîcheur du groupe et aussi leur envie de bien faire et leur envie de montrer ce qu'ils veulent sur leur musique. Et on parlait justement de cette profondeur musicale. Ça peut être difficile de premier abord de donner en tout cas une couleur musicale unique. Ce qu'on ressort de toute façon le plus en inspiration, c'est ce côté Radiohead, Thom Yorke et Black Midi. Est-ce que déjà vous pouvez m'expliquer pourquoi ces deux-là, c'est les plus importantes ou en tout cas les plus marquantes pour vous ?
Je dirais que c'est deux influences sur lesquelles on s'est retrouvés le plus rapidement et tous ensemble un peu dessus, sur plein d'aspects différents. Mais en fait, nous, on vient tous d'horizons musicaux hyper différents et assez extrêmes dans les différences, ou en tout cas variés. Et on a mis beaucoup de temps à s'accorder déjà dans la compo, dans la manière d'aborder les musiques et tout ça. Quand on est tous tombés ou retombés sur Radiohead ou qu'on a découvert Black Midi ensemble, on s'y est vite trouvé quelque chose de commun. Dans l'expérimentation, dans la manière de taffer le son, dans le côté avant-gardiste quand c'est arrivé, quoi, pour l'un comme pour l'autre.
Et je pense que ces deux projets, pour des raisons différentes, soulignent deux aspects qui sont assez primordiaux dans ce qu'on fait. Il y a le côté très texturé de Radiohead, le côté vraiment de la recherche sonore et mélodique qui nous porte de plus en plus d'ailleurs sur cet album, plus que sur les précédents.
Ça se ressent, clairement.
Et puis le côté très libre et très, très imprévisible de Black Midi qu'on aime aussi mettre en place pour que ce soit une musique qui est très vivante, qui est très nuancée et dans laquelle on peut vraiment avoir une palette d'expression hyper large. Et Black Midi nous a beaucoup, pas forcément ouvert la voie parce qu'on commençait déjà à toucher un peu ça du doigt, mais en tout cas montrer une manière de le faire et qui nous a beaucoup parlé quand c'est arrivé sur le devant de la scène il y a quelques années. Ouais.
C'est même intéressant, des groupes, en tout cas des compositions, des formations avec chacun un univers musical ultra riche, vous arrivez à trouver en fait des passerelles autres que, j'entends, Radiohead, Black Midi, mais que les notes de certains vont se retrouver dans les notes de l'autre et vous allez arriver à faire une couleur commune avec tout ça.
Ouais, en fait, il y a plein de visions intéressantes dans notre manière de capter la musique entre nous. Que ce soit nous quatre ou nous entre deux personnes du groupe, quoi. Tous les duos qui existent dans le groupe, il y a des choses qui collent et qui ne sont pas dans les autres duos. Moi, j'ai plein de musiques en commun avec Swan, avec Mathias, avec Mathieu, que j'ai pas avec deux personnes en même temps, etc. Et du coup, il y a une richesse et une intimité qui se partage entre nous quatre qui est vraiment particulière et qui se retrouve aussi beaucoup dans notre manière de composer. Où je trouve que, enfin, je pense en tout cas que ça vient de là, ce côté on capte pas trop qu'on a des influences assez différentes, c'est que il y a vraiment cette approche-là de vouloir satisfaire tout le monde, et il y a aussi cette intimité d'avoir plein d'influences qui sont communes et très personnelles entre tout le monde, quoi.
En tout cas, à la réécoute, au réécoute de l'album, c'était quelque chose qui me marquait beaucoup, c'était cette notion d'un feeling global, d'une entente globale. En travaillant en duo, en ayant ces identités-là, qu'est-ce qu'on peut donner comme couleur aujourd'hui à Wehob ?
J'ai vraiment envie de te dire que Wayob, avant même de parler de musique ou de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est d'abord de l'ordre de l'humain, beaucoup. Et qui est ce qu'on, au final, ce qui nous porte le plus, je pense, bien au-delà de la musique, on pourrait faire de la peinture, qu'on serait tout autant les quatre, l'ensemble, tout autant heureux de le faire les quatre. Et la musique, c'est notre langage commun, comme ça pourrait être autre chose. C'est plein de références, c'est plein de choses qu'on partage intimement avec l'une ou l'autre des personnes, et c'est ce feeling-là qui je pense, le truc qui nous fait le plus, qui nous fait le plus kiffer dans ce projet, en fait. C'est vraiment le gros mur porteur de ce projet, c'est le lien qu'on entretient.
Mais il y a aussi l'aspect du fait qu'on sait pas où on va, en fait.
Ouais.
Là, on fait de la zik. Dans 5 ans, peut-être qu'on fait pas du tout cette zik-là. Mmh. Il y a 5 ans, on faisait pas du tout la musique qu'on va proposer dans 3 jours avec le nouvel album. Et il y a ce côté hyper excitant et en même temps qui me met en confiance, justement, qui vient du fait qu'on se kiffe en tant qu'humain. Du fait que on sait pas où est-ce qu'on va et on cherche juste à découvrir ce qu'on peut proposer de différent et d'autre et de nouveau et qui nous fait plaisir à jouer.
C'est cette fraîcheur et cette insouciance qui vous permet peut-être d'être plus libre dans votre musique et d'exprimer plus facilement vos thèmes.
Et
là, beaucoup de blabla, mais cette fraîcheur, je pense à un de mes sons préférés du projet qui est Fangs. Je vous propose une petite pause et on se passe tout de suite Fangs de Wayob. We'll be right back.
vous écoutiez Fangs de Waves. Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, toujours sur 87.7 FM, vous êtes toujours avec Lana. On n'a pas terminé pour autant l'interview. Là, vous avez entendu Wehob sous sa forme studio. Ça paraît un petit peu bizarre à dire comme ça. Mais pour le coup, quand j'ai eu la chance de les voir donc, en concert à la Boule Noire à Paris, il y a vraiment une énorme différence entre ce Wehob en studio et ce Wehob en live. On sent vraiment un groupe qui est habité par sa musique, qui la vit de la manière la plus intense possible. Et par conséquent, j'étais obligé de leur poser une question à ce sujet-là.
T'évoquais le langage commun dans votre musique. Moi, ce que je note cependant, c'est qu'en fait, quand vous vous adressez au public, vous avez deux accents. C'est que soit vous avez l'accent du studio, soit vous avez l'accent du live. Entre un titre que vous faites en version studio et un titre que vous faites en version live, il y a effectivement des petites nuances dans la manière de faire, dans la manière de jouer. Ça s'explique comment ?
C'est beaucoup de choses. Il y a déjà le fait que le moyen, on va dire, d'amener la musique au public n'est pas le même quand la personne est posée chez elle entre deux enceintes ou quand la personne est en communion avec plein d'autres gens en train d'écouter et de voir la musique se dérouler sous ses yeux. Donc y a la volonté à chaque fois, en fait, elle est de retranscrire au mieux possible l'émotion que nous on veut apporter avec un titre, avec un live, avec un album. Donc on le réfléchit déjà, les morceaux, on va dire, dans ce cœur là de qu'est-ce qu'on veut dire, comment on fait pour le dire le mieux possible, indépendamment de le penser, de penser à la transmission, on va dire. Déjà, comment on le dit au mieux, là, juste entre nous, comment on se raconte le mieux, entre guillemets, ce qu'on a envie de dire. Une fois que ça s'est fait, une fois qu'on a le morceau, ok, maintenant, comment on le retranscrit pour que ce soit agréable et, on va dire, lisible à ressentir et à apprendre cette émotion pour quand on l'écoute en tant qu'auditeur, on va dire, posé entre deux enceintes. Et en parallèle, comment on fait pour que cette émotion elle soit la plus puissante possible en live, et c'est là où on a en général le plus de... où c'est le plus permissible en fait, live. Mais du coup, c'est deux approches différentes, mais avant ça, en fait, avant même de penser l'un ou l'autre, il y a vraiment ce côté, l'essence du morceau qui naît en répète et qui est ça qu'on a envie le mieux possible de transmettre et qu'on s'évertue le mieux possible à transmettre via l'une ou l'autre des méthodes.
Et autant, moi, j'ai parlé donc de Fangs, qui est le morceau qui m'aura le plus touché, à la fois en studio et aussi en live. Mais ça me paraissait évident de demander aux artistes, bah, à chaque fois, quel est le projet, en tout cas le titre qu'ils préfèrent dans le projet et celui qui préfère le défendre.
La question facile, c'est quoi votre titre préféré du projet chacun et pourquoi ?
De mon côté, ce sera Me and the Tide, qui est un grand morceau de 9 minutes 30, qui est d'ailleurs né d'une répète d'une traite. On vivait les quatre des choses pas très faciles à ce moment-là, et on s'est retrouvés, on a jammé comme on jamme beaucoup en répète, on improvise. Et en fait, on a fait 30 minutes de jam, on a découpé dedans et le morceau était là. On n'a rien eu d'autre à faire, et donc ce dont je te parlais de l'essence du morceau, ça a été une des fois les plus évidentes et les plus directes entre le moment où on se dit qu'on veut transmettre quelque chose et le moment où la chose apparaît de manière évidente sous nos yeux, quoi.
Okay.
Moi je vais dire A Strange Ocean, le titre éponyme de l'album, qui est le dernier morceau de tout l'album.
Et qui est clippé.
Et qui est clippé, exactement.
Allez cliquer.
Allez cliquer, allez regarder, c'est très important. Ouais. Allez soutenir. Gros coucou au film de La Sauvagère. Moi je choisis ce titre parce que à chaque fois quand je me tape une réécoute de l'album, je trouve que c'est un très bon moyen de finir l'album en fait. Mmh. Et je suis très heureux de la manière dont on a réussi à le faire sonner en stud. Ça c'est un truc qui me touche beaucoup, et en plus vu que c'est moi qui ai mixé l'album et tout ça, bah forcément il y a ça qui joue.
Ouais, bien sûr.
Mais je trouve que notamment la deuxième partie, je vais spoil personne à aller écouter encore une fois, mais c'est vraiment cool ce qui se passe et je trouve que c'est un truc qu'on a encore jamais exploré dans Weob, où en fait on s'est extrêmement retrouvé là-dedans quoi, et ça nous fait beaucoup de bien de jouer des trucs comme ça.
Pour autant, ce qui est vraiment le plus marquant dans cet album A Strange Ocean, c'est aussi c'est quelque chose qui peut paraître un peu anodin. C'est quand même le fait qu'on est sur un album dans la construction et en tout cas dans la manière qu'il a d'être proposé au public, d'être très étonnant. C'est d'avoir des sons qui sont très longs, que ce soit pour un passage radio ou même pour l'industrie musicale de manière générale. On parle des titres à 7 à 9 minutes. Comparé à ce qui est aujourd'hui, maintenant on pourrait appeler un peu une dictature de ce que propose TikTok avec justement des contenus de plus en plus courts et de plus en plus accélérés, Weob se
positionne finalement comme un outsider face à cette dictature et cette position-là dans l'industrie musicale.
On est dans une industrie musicale où les titres doivent être de plus en plus courts, les TikTok doivent être de plus en plus efficaces, et vous, vous arrivez, vous dites, moi je sors des tracks de 9 minutes.
On vit dans une saucisse.
On vit vraiment dans une saucisse.
On vit dans une saucisse.
Parce que après, ça reste logique en soi dans le style de musique que vous faites et dans les approches. Mais quand même, 9 minutes, genre.
Oui.
C'est pas...
Et moi, deux fois dans l'album.
Ouais, quand j'ai écouté l'album pour la première fois, je me suis dit, 9 minutes, c'est couillu, quoi.
Et c'est un truc qui nous tient énormément à cœur parce que. Nous, quand on compose, on fait pas des jams de 3 minutes, puis après on s'arrête et puis on passe à une autre, quoi. On joue 2 heures de suite, puis après on se dit, tiens, putain, on a joué ces 5 minutes là, entre 50 minutes et 55, c'était trop bien, faut faire une chanson. Et on écoute tous des styles de musique où les gens osent prendre leur temps, osent faire kiffer en prenant le temps et tout ça, où on écoute des morceaux qui peuvent très bien durer 5, comme 15, comme 20 minutes. Et c'est des choses que nous, on adore explorer. Et où ça permet de s'étaler autant musicalement que lyriquement, etc. quoi.
Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté, en tout cas d'un public qui en a marre, justement, qui diverge, on va dire, de cette volonté de l'efficacité et du format TikTok et radio, et qui a besoin en fait de ces longueurs. Et parfois, on a besoin aussi qu'il y ait une longueur pour qu'une émotion s'installe, pour permettre des ressentis. Et c'est par là que nous on passe. Et il y a beaucoup de groupes en ce moment en fait qui cherchent à s'écarter de ces tendances-là, pas forcément purement par provocation, mais aussi par volonté de faire vivre d'autres choses et d'aller explorer d'autres horizons musicaux.
En fait, on écrit les chansons pour nous d'abord, et puis quand on se dit qu'elle est finie, elle est finie. Et si elle dure 3 minutes comme Lasca, c'est super. Si elle dure 9 minutes comme Strange Ocean, c'est super aussi, quoi.
On revient à ce qu'on disait, c'est cette approche un peu naïve, même si le mot il est un peu péjoratif.
Oui, c'est ça. Il y a déjà assez de gens qui font des formats radio pour faire des formats radio. Nous, on est trop content de pouvoir s'autoriser à faire des chansons en pensant juste au fait qu'elles nous plaisent, quoi. Et d'aussi essayer d'arriver à en faire quelque chose alors que c'est des morceaux qui durent 9 minutes.
Et pour terminer cette interview, j'avais une carte planquée dans ma manche. En tant qu'Amiénois, on est très fiers de notre ville, on est très fiers de la scène musicale qu'il y a ici. Et au détour d'une interview, j'ai remarqué un petit truc avec Weob, et j'étais obligé de leur poser la question parce que je trouvais que la question était vraiment très très drôle de faire remonter à la surface une information que ça fait plusieurs années qu'ils n'en avaient pas parlé.
Quand vous avez fait Musilla, quand on vous a posé la question, vous voulez feat avec qui ? Et vous avez répondu Mano Polo. C'est pour quand, du coup ?
On est en contact encore. Mm-hmm. On avait pas mal évoqué cette idée-là, et puis elle est quand même beaucoup restée dans nos têtes. La preuve, on en reparlait il y a une demi-heure, une heure. Et en fait, on n'a pas eu l'occasion, entre guillemets. J'avais aussi fait quelques petits trucs avec Paul et Manoa en solo. Nous trois, on n'avait jamais rien sorti et tout. C'était juste fait kiffer comme ça. Mais on a déjà bidouillé du son, on a déjà parlé, on s'est déjà recroisé. Moi, sincèrement, j'espère que ça arrivera. Il faut voir sous quelle forme et puis si on a l'occasion, quoi, et si c'est pertinent, si c'est dans le bon moment pour les vies de tout le monde. Mais en tout cas, oui, la scène d'Amiens, elle est très forte.
On va se bagarrer. Hein. On va se bagarrer. Hein.
La scène d'Amiens, elle est vraiment là dans nos cœurs, quoi. Moi, sincèrement, j'espère un jour et puis j'espère que ce sera le bon moment surtout, quoi. Que ce soit dans un mois comme peut-être dans 10 ans, en tout cas on pense très fort à eux, à elles, à tout le monde, et ça pourrait être bien. Donc on pose ça là,
mais plein d'amour à tous les deux, et de toute façon on s'apprécie artistiquement assez pour que ça se fasse un jour, comme a dit Iva. Faut qu'on trouve le moment.
Vive Mano Polo.
On espère que ça se fasse. Merci à vous deux pour le temps de cette émission, en tout cas pour le temps de cette interview.
Merci à toi.
Je sais pas encore par quel son je vais terminer. Je mettrai mon son que je préfère du projet, je sais pas encore. Mais merci à vous deux, et puis bon courage pour 2026. L'année a l'air d'être rude déjà.
Ah non, c'est une très bonne année, puis on espère te revoir pour parler d'un feat avec Mano Polo. Allez,
avec plaisir. Ouais, magnifique. L'année est pas du tout rude, au contraire. Les deux années avant la sortie ont été très rudes parce qu'on avait qu'une hâte, c'était d'être cette semaine et de pouvoir enfin sortir. Donc là, c'est parti, on commence la tournée et on a trop hâte de toute la suite, là, tout ce qui arrive.
Et bah super, merci à vous deux.
Merci.
Et quant à moi, bien évidemment, pour les remerciements, je me dois de remercier
Lucie Marmiès de Elle aussi You in LA, encore une fois, décidément, on ne fait que collaborer ensemble. Hein. Split, Nasty Joe, Wayob, le roster est conséquent. Je pense aussi à d'autres groupes qui méritent amplement vos écoutes. Je pense à Angine de Poitrine, je pense à TV Sundays, moult et moult profils. Je pense à Vera Daisies qui passe bientôt aussi à la Lune des Pirates. A Strain Ocean, l'album de Wayob est disponible sur toutes les plateformes. Il y a aussi des vinyles qui sont disponibles sur leur site internet. C'est véritablement un album plus que je vous le recommande. C'est selon moi le meilleur album de cette année. On est en avril, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pris un album aussi fort, un groupe aussi attachant, et je ne souhaite que le meilleur à eux. Et merci aussi à Héloïse Cloanet de Bise, qui est leur manager. Merci aussi à Radio Campus, encore une fois, de host cette émission de Dump. Quant à moi, c'est terminé pour ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté sur les ondes de Radio Campus Amiens 87.7 FM. Quant à moi, je vous dis, je l'espère, le deuxième jeudi de chaque mois, comme on avait dit, si je ne tombe pas malade d'ici là. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et puis on se tient au jus. Allez, ciao, ciao!
But you can call me Lana.